Florian Lecture.
Bouillon de lecture, un bouillon d'été où on a choisi de vous lire un livre un peu plus en détail, par épisode. Nous avons choisi l'héritage de Cavanna, oui, le Cavanna de Harakiri et de Charlie Hebdo. François Cavanna est né en 1923 d'un père italien et d'une mère française. Il a vécu à Nogent-sur-Marne dans ce qu'il appelle lui-même une rue aritale. Et donc dans son livre, il raconte son enfance, la France des années 30, dans sa banlieue parisienne, avec un langage assez cru, assez imagé, qui se veut le langage de l'enfant qu'il était. Aujourd'hui, Catherine vous lit un passage qui vous parle de Cavanna, l'enfant passionné, passionné de lecture, passionné par l'imprimé. L'épisode s'appelle « La bibliothèque ».
La bibliothèque. Je ne sais pas si je l'ai dit, j'ai su lire très tôt, vers 4-5 ans. Oh, pas que moi d'ailleurs, les autres mômes aussi. Hein. Ceux qui avaient la chance d'être des enfants de purotins et de se voir cloquer chaque matin sur le coup de 8 heures devant la maternelle du boulevard Gallieni par leur mère, cavalante, qui les posait là comme un lapin pose sa crotte, sans s'arrêter de foncer vers les ménages nutritifs en essuyant une larme. Maman venait me reprendre à midi, toujours en courant, me couper mon beefsteak. Bon, je savais le faire, hein, mais j'étais lent. Comme un jour sans pain. Ça l'énervait. Avaler ses nouilles, debout, coincée entre la table, le réchaud à gaz et la pierre à l'évier. Elle avait juste à tourner un peu les hanches, elle débarrassait d'une main, lavait la vaisselle de l'autre pendant que je mangeais mon dessert. C'était commode, juste à se pencher un peu, un coup à droite, un coup à gauche, cuir, bouffée, vaisselle. Tout ça debout, sans changer de place. Un tourbillon immobile, maman. Un moulin à vent. Me torcher le bec d'un revers de lavette. Finis ton verre. Tu crois quand même pas que je vais le jeter au prix que ça coûte. On voit que c'est pas toi qui a le mal de le gagner, hein. Je finissais mon verre. Un tiers de vin, deux tiers d'eau chaude. J'aimais pas beaucoup. Enfin, surtout l'eau chaude. Maman buvait toujours son vin coupé d'eau chaude. Donc moi aussi. Pourquoi chaude ? Va savoir. Ça doit être bon pour la digestion, ou en tout cas, c'est ce qui doit se dire à Forges, paroisse de Sauvigny-les-Bois, dans la Nièvre. Un coup de peigne et en route. Me revoilà à la maternuche. Il y en avait, ils restaient le midi à la cantine. Quel prestige ! Ils se sentaient dans l'école plus chez eux que nous autres. Je les enviais. En même temps, ça me faisait très peur. Une fois, j'y suis restée, à la cantine. Maman était allée voir sa sœur malade à Paris, quelque chose comme ça. C'était de la purée avec du haché. J'ai rien pu avaler. Le haché, je connaissais. Maman me faisait manger du cheval haché pour me fortifier. Mais pas comme ça. Elle, c'était dans du bouillon qu'elle versait dessus. Mange vite! Sans ça, ça va cuire le haché et tout le fortifiant sera parti. C'est le bon sang rouge qui donne des forces. Si c'est cuit tout blanc, ça vaut plus rien. Et par là-dessus, le coup du docteur. Un fond de verre de vin rouge pur. Hop ! Je sentais les forces me cavaler partout du haut en bas. À la cantine, on buvait du coco. J'aimais bien ça. Mais juste un verre pour tout le repas. Fallait le faire durer. Bon. Rien pu avaler. Madame Casse m'a gueulé dessus. Elle me terrorisait. Elle était grosse, très brave, mais ça se voyait pas. Elle avait de la moustache et la baffe rapide. Elle a dit que j'étais un délicat, que maman me gâtait, que je serais jamais un homme. J'ai pleuré. Madame Casse a dit « Je le dirai à ta mère, que t'as rien mangé et que t'as pleuré. » Et elle l'a fait, la vache. Maman a dit « Plus jamais je te laisserai manger loin de moi. Plus jamais. » Il va me tomber en faiblesse. Allez, viens vite. Tu te sentis la tête qui te tourne? Mais regardez-le donc, il est tout blanc. Elle m'a acheté une banane sur le chemin. Ha, j'avais bien besoin de le laisser à leur saleté de cantine aussi. Ça t'apprendra, Marguerite. Tu recommenceras, hein ? Vieille bête ! Elle s'est engueulée, traînée dans la boue toute la nuit. J'entendais le bruit des gifles qu'elle se donnait. Papa a fini par lui balancer une godasse à travers la chambre, dans le noir. Il l'a loupée. Et il a loupé aussi la glace de l'armoire, ça valait peut-être mieux comme ça. Madame Cass n'a plus été gentille avec moi comme avant. C'est elle qui nous surveillait le soir après 4 heures, quand les maîtresses étaient parties et qu'on attendait que nos mères viennent nous chercher, l'une après l'autre, suivant l'heure où elles finissaient leur lessive chez leur patronne, au diable dans la nuit d'hiver. Elles sentaient la sueur, le savon noir et l'eau de Javel. Elles avaient les mains toutes ramollies, décolorées avec de la peau en trop qui faisait des grimaces. C'était d'être restées toute la journée dans l'eau. On les attendait bien sages, assis sur des bancs dans le préau, en regardant des livres d'images très vieux, tout déchirés, avec des ogres et des crapauds et des ours et des diables et des gendarmes et des mauvais sujets qui devenaient des assassins féroces, du sang partout, épouvantable, en couleurs, mais des couleurs qui bavaient, débordaient, surtout le sang. Qu'est-ce qu'il y avait comme sang? Tout rose il l'était, le sang. Je sais aujourd'hui que c'était des albums d'images d'Épinal, coloriés au pochoir. Ils dataient au moins de Napoléon III. On les regardait en mangeant notre 4 heures qu'on avait apportées dans notre petit panier à rabattant. Moi, c'était toujours un petit pain au lait avec une barre de chocolat à la crème, toujours. La crème qu'ils mettent dans le chocolat, c'est rien que du malsain et rien que du chimique. Maman me disait ça à chaque fois. Plus c'est des belles couleurs, plus c'est chimique. Ça empêche de grandir. Mais moi, du chocolat qui est rien que du chocolat sans dedans, en plein milieu, une belle crème rose ou verte ou jaune. Tu sais pas d'avance de quelle couleur elle sera, la crème. Tu fermes les yeux, tu mords une bouchée, tu regardes, paf, jaune, t'avais parié verte. Du chocolat sans crème, c'est triste, c'est pas rigolo. Là, j'ai été inflexible. Maman a cédé sur la crème, en me ronchonnant la chimie qui fait des trous dans l'estomac à chaque fois. J'avais quand même un peu peur. À nos gens, on a beaucoup de chance. Je l'ai déjà dit, mais on en a encore plus que ça. On a un maire. Bon, on n'est pas les seuls, d'accord. Mais attendez, notre maire, c'est le plus riche de la commune. Bon, comme partout, d'accord, d'accord. Seulement lui, il s'appelle Champion. Pierre Champion. Et c'est un écrivain. Célèbre même. De l'Académie Goncourt. Un historien. Il a écrit des livres sur Louis XI, sur Charles VII, sur Jeanne d'Arc, la guerre de Cent Ans. Toute cette époque. C'est sa spécialité. Une vraie passion. Et justement, à nos gens, ça tombe bien puisque c'était là, à mi-côte, au lieu dit Beauté, très exactement, que, comme je vous le disais, le roi Charles VII avait fait construire un château pour sa poule, Agnès Sorel, surnommée pour cela très finement la Dame de Beauté. Calembour, faut rire, mais aussi madrigal exquis, faut juste sourire en connaisseur, le roi regarde. Ce château, ou ce qu'il est devenu par la suite, appartient justement à monsieur le maire, Pierre Champion. Je ne l'ai jamais vu, hein, parce qu'il se trouve au beau milieu d'un parc énorme entouré de murs tout autour qui commence à la rue Charles VII, c'est-à-dire presque à la Grand Rue, au centre même de Nogent, et dégringole la côte jusqu'à la Marne, ce qui représente un bon morceau de la superficie de la commune. Hein. Une espèce de campagne en pleine ville, bien close. Il paraît que c'est très beau dedans. Tout autour, les rues ont les noms assortis. Rue Charles VII, rue Agnès Sorel, avenue de la Dame de Beauté, rue du Jeu de l'Arc, rue du Jeu de Paume. Je ne saurais pas dire si Pierre Champion les a trouvés déjà là ou si c'est pour lui faire plaisir qu'on les a baptisés comme ça. Monsieur Pierre Champion est le maire de Nogent depuis toujours. Bah, moi, j'en ai jamais connu d'autres. Je le vois chaque 14 juillet au vin d'honneur. Quand je vais avec les autres enfants des écoles lui chanter la Marseillaise sur les marches du grand escalier devant la mairie. Contre nous de la tirelire, même qu'on a droit à un petit coup de vin blanc, avec beaucoup de limonade autour et un biscuit pour tremper dedans. Si tu sais te démerder, tu te ramènes des pleines poches de biscuits, tu vannes. Monsieur Pierre Champion fait du bien à la commune. Il y a à Nogent 2 compagnies de tir à l'arc et 1 tir à l'arbalète. Il n'y a pas de batterie de tir à la bombarde, pourtant c'est aussi une arme pittoresque du temps de Charles VII. L'arbalète, elle est rue des Jardins, juste en haut de la rue Sainte-Anne, le long du terrain tout long, tout maigre qu'il y a derrière le bistrot à Madame Pélissia. Le terrain de l'arbalète est encore plus maigre. C'est parce que l'arbalète, ça tire loin, mais c'est pas large. Plus large qu'un fusil, d'accord ? À cause de cette espèce d'arc en fer qu'il y a au bout, mais pas bien large quand même. La cible à un bout, le bonhomme avec son arbalète à l'autre bout, les autres derrière qui attendent leur tour. C'est des pépères un peu vieux avec du bide et des gilets de laine tricotés à la maison. Comme ceux qui jouent aux boules au bois de Vincennes. Mais ceux-là se croient pour de vrai à la guerre de 100 ans. Ça rigole pas, tradition et tout. S'ils osaient, ils s'habilleraient tout en fer. On se fait la courte échelle pour les regarder par-dessus le mur au Pélicia. Ils nous engueulent. « Qu'est-ce que vous espionnez, sale môme ?» Ils parlent d'aller chercher les flics. Le tir à l'arbalète, ça rend pas gracieux. Merde. Qu'est-ce qu'ils ont dû se laisser aller sur la figure, les gougnafiers de la guerre de 100 ans?
À la gare de Lyon, il y a des hommes d'affaires et des femmes à talons qui boivent leur café solitaire près du kiosque à journaux. Je les vois qui s'affairent cocher les chiffres du loto, laisser un message à leur mère. Je ne sais pas à quoi je sers, à quoi je sers ici bas. Tout est mystère sauf mon train qui s'en va.
En plus du tir historique aux armes de musée, M. Champion fait beaucoup pour l'instruction publique et les belles lettres. Par exemple, la bibliothèque municipale. La bibliothèque municipale de Nogent, pour un dévorant d'imprimés comme moi, c'est la caverne d'Ali Baba. C'est le grenier de la grand-mère que j'ai jamais eu. C'est les yeux plus grands que le ventre. C'est l'extase et le paradis. Tout le premier étage d'une espèce de château dans la grand-rue, juste en face du restaurant Cavana. Au rez-de-chaussée, il y a le commissariat. Faut passer devant tous ces flics pour aller chercher des livres. J'aime pas tellement, je serre les fesses, mais enfin, bon. J'ai découvert la bibliothèque avant le bordel, longtemps avant. Je devais avoir 12 ans. Un peu plus tôt, j'avais connu la bibliothèque de la classe. Le père Bouillet nous avait sacrifié une armoire vitrée et fermant à clé. « Faites cadeau à la classe des livres que vous avez en double », il avait dit. En double? Il y avait des types qui avaient des livres en double? Ha! Ouais, la bibliothèque compte à bientôt une centaine de livres, soigneusement couverts par nous de papier bleu foncé, avec au dos une étiquette et un numéro. Le numéro correspondait à un titre porté en belle écriture ronde dans le catalogue. J'eus dévoré l'armoire entière en 3 mois, vitres et serrures comprises. C'était surtout des bibliothèques vertes, des Jules Verne, Molière, Corneille, Racine en petits fascicules, Vaubourdol avec note explicative au bas de la page, Le Livre de la Jungle, Le Petit Prince, Cro-Blanc, La Mare au Diable, Les Lettres de mon Moulin, L'Iliade, L'Odyssée, La Fontaine, Shakespeare, hélas en anglais, Alice au Pays des Merveilles, en anglais aussi. J'ai même essayé Alice, je ne connaissais pas un mot d'anglais, mais je pensais que la bonne volonté devait y arriver. Il n'y avait pas de raison. Je parvenais bien à déchiffrer, que je croyais, la buona parola bollettino mensile della missione cattolica italiana. Envoyé d'office à papa qui ne savait pas lire, mais était très flatté qu'on fît comme si ça ne se voyait pas. Dès que dans mon tendre cerveau se furent accrochés solidement les petits circuits réflexes entre le parler et l'écrit, je fus enfin moi-même. Une machine à décoder de l'imprimé, conditionné comme le chien de Pavlov qui salive quand sonne la clochette annonçant la pâtée. J'ai vu ça dans mon livre d'histoire, enfin dans mon livre de Saint-Snat. Non, on disait dans mon livre d'histoire naturelle. C'est peu de dire que je savais lire. Je ne pouvais pas ne pas lire. N'importe quoi, partout, toujours. Le couvercle de la boîte à camembert, sur la table, pendant le déjeuner. Camembert A, le petit et fils, fabriqué en Normandie. Ça, c'était écrit en doré tout autour, en petit dans un rectangle, syndicat des producteurs du véritable camembert de Normandie. Et encore plus petit dans des médailles, Grand Prix Exposition Internationale de Chicago 1920, Médaille d'or Exposition Internationale de Paris 1880, hors concours Exposition Coloniale Paris 1934. Je lisais tout. À chaque fois que ça me tombait sous l'œil, c'est-à-dire 350 000 fois par repas, du début à la fin, je lisais tout. Jusqu'au nom de l'imprimeur, écrit tout petit dans le coin en bas. C'était chiant à hurler. J'essayais de regarder ailleurs. Ailleurs, il y avait la boîte de sel Cérébos avec le poids net, l'adresse de la fabrique, pur sel de mer, tant pour cent de magnésium, tant pour cent d'iode. L'iode. Il n'y a rien de tel pour les bronches, disait maman. Il y a du fer dans l'iode. Il y a de la teinture aussi dedans. C'est pour ça que ça donne des bonnes couleurs. Des médailles et des expositions internationales, ça doit être marrant. Les expositions internationales, tous ces camemberts, ces boîtes de sel, ces petits beurres, ces rouleaux de papier hygiénique bien rangés à côté les uns des autres sur de longues tables, j'imagine, et ces messieurs instruits. Ces présidents de la République qui passent devant graves et goûtent du bout du doigt, du bout de la langue et hochent la tête, goûtent l'autre, hésitent, celui-là, pas mal du tout, ah mais celui-là, oh et l'autre là, oh là là, et tout à coup, sourire, extase, et n'hésite plus, celui-ci, voilà le bon camembert, d'excellent sel, l'exquise cire à parquet, et épingle, solennelle et émue, la médaille d'or à la poitrine du fabricant valeureux qui, bien élevé, dit « Non, vraiment, c'est trop, fallait pas ». Défaillant de fierté et d'envie de pisser. 5 heures debout à attendre le président sans oser bouger. C'est long. Impossible, donc, de ne pas lire. Les affiches sur les murs, le « défense d'afficher » sur les murs où sont défendus d'afficher loi du « je sais plus combien de juillet 1881 ». Dans un paysage, s'il y a de l'écrit dans un coin, je vois plus le paysage. Je lis l'écrit et je rêvasse à tout ce qui vient s'accrocher derrière ce que raconte l'écrit. Les choses, pour moi, c'est d'abord des mots écrits. Si on me dit « cheval », si tout seul dans ma tête je pense « cheval », je vois le mot « cheval » imprimé, attention, pas écrit à la main, imprimé en minuscule d'imprimerie, je le vois là, devant moi, noir sur blanc. Avec le hargneux crochet de son C au bout à gauche, son H pas trop aimable non plus, qui dépasse en l'air ainsi que le L, son V prétentieux au milieu, son E très gonzesse, son A pansu, assis sur son gros cul, cheval. Après, seulement après, je vois la bête. Tout ça se fait beaucoup plus vite que je l'explique, à une vitesse fantastique. Mais j'ai quand même le temps de bien le voir, le mot, avec tous ses détails, sa physionomie, son mauvais caractère ou son clin d'œil complice. Les mots, c'est vraiment des copains. Prends n'importe quel mot. Tiens, prends café. Sans réfléchir, sans analyser, quelle impression tu as ? Je veux dire, si tu vois un visage pour la première fois, tu ressens une impression comme ça au premier choc. Ben là, pareil. Un mot, ça a une gueule. Café, moi, ça me fait, comme je vais dire, arrogant, maigre, grand seigneur. Don Quichotte, ouais, il y a de ça. Non, pas assez escogriffe, sec, précis, mais ample. Sobre munificence, un très beau mot. Il y a des mots avec des H en trop, des consonnes doublées, des O, des halt, des un, des X. C'est ceux que je préfère. Ça leur donne une physionomie spéciale, un air précieux, un peu maladif, comme T. Ou au contraire, pétant de gros muscles comme apporté, recommandé, ou qui fait grincer des dents comme exception. Il y a des mots à chapeau à plumes, des mots à falbala, des mots à béquilles et à dentiers, des mots ruisselants de bijoux, des mots pleins de rocailles et de trucs piquants, des mots à parapluie. Quand on me parle, mais surtout quand je parle, je les vois passer un à un, à toute vibure, s'accorder, se conjuguer, s'essayer, un S au pluriel, le rejeter en pouffant parce que ça va pas du tout, grotesque elle est, vite, s'accrocher l'X qui va comme un gant. Ah, c'est bon. Salut, ça défile. Ça explique que très vite, j'ai su mettre l'orthographe. La grammaire m'a toujours été jeu proposé, aux règles passionnantes, jeu de logique et d'architecture. Jamais été foutu d'apprendre la belote ni le plus facile des jeux de cartes. Mais la grammaire, quel régal! Si je pense à tel épisode d'une aventure que j'ai lue, je vois le texte imprimé, je vois la page, celle de gauche ou celle de droite, et si ça se trouve en haut, en bas ou au milieu. Tous les jeudis matins, jour sans classe, j'allais avec un cabas à la bibliothèque municipale. Les livres étaient vénérables pour la plupart, tous uniformément vêtus d'une grosse reliure de toile noire faite pour résister pendant des siècles aux poignes calleuses des ouvriers avides de culture, suivant l'idyllique vision Jules Ferrique de l'instruction publique. On avait droit à 2 livres à emporter par personne inscrite. Alors j'avais inscrit papa et maman, ça me faisait compter avec moi 6 bouquins à dévorer par semaine. Avec les illustrés que me passaient les copains et les journaux que maman rapportait de chez ses patronnes pour allumer le feu et garnir la poubelle, ça me faisait de quoi tenir d'un jeudi à l'autre. Mais bien juste, hein. On choisissait sur catalogue, mais les titres qui vous faisaient envie étaient toujours en main. Fallait faire une liste par ordre de préférence. La barbe. J'aimais mieux fouiner dans les rayons et me laisser séduire par la bizarrerie d'un titre ou les effilochures d'une très vieille reliure. J'aimais les livres énormes. Je remontais la rue Sainte-Anne, le cabas bourré de gros bouquins me tirait de côté vers le bas. Les mères Rital me regardaient passer les yeux écarquillés par l'admiration et un vague effroi. « Ma, tutte queste livres, tu vas les lire, François ? Oh, peut-être tu regardes seulement les images. » Il n'y a pas d'image, je disais. Tu vas pas me dire que tu vas lire tout queste mot décrit tout seul, non? Ton père, je le sais que t'aider. Il peut pas pourquoi lire. Il sait pas. Ma Sarah toute marre, pourquoi elle? À sa lire, mais les tantes fatiguées, pauvres femmes, surtout le soir. Où je trouvais le temps? J'avais des journées bien remplies. L'école, les devoirs, les potes, la rue, les commissions. Je lisais la nuit dans mon lit. Dès que j'ai eu un lit à moi, d'abord à la lueur de l'ampoule du plafond qui devait faire dans les 25 watts, l'électricité, on voit bien que c'est pas toi qui as la paye, qui a la peine de le gagner, hein, et donner un chiche à l'eau jaune dont le peu qui arrivait à se traîner à bout de souffle jusqu'à mon livre se cognait par derrière à la couverture et ne servait guère qu'à me faire de l'ombre sur la page. Je devais me lever et traverser la chambre pour éteindre. L'hiver, c'était glacial. Rien n'était prévu pour chauffer ce réduit. Je courais me replonger sous l'édredon. Je me fracassais au passage l'orteil contre le pied du liquage, une saloperie de ferraille anguleuse. Un jour, j'ai trouvé une vieille douille dans le fourbi de papa. Je l'ai emmanché dans le goulot d'une bouteille de Chianti et ça m'a fait une lampe de chevet. Une fois ou l'autre, j'y mettrai un abat-jour. Des prises de courant dans les logements ouvriers, il n'y en a pas. Le strict nécessaire. L'ampoule du plafond et l'interrupteur près de la porte. J'ai bricolé une douille voleuse avec le culot d'une ampoule brûlée, un gros bouchon de liège et des bouts de fil de fer. J'ai branché les deux bouts des fils de ma lampe de chevet dans les trous. Et voilà, merveille, ma lampe s'est allumée. Elle avait même luxe un interrupteur incorporé fait d'un bout de couvercle de camembert sur lequel j'avais vissé des petits boulons avec une broche mobile découpée au ciseau dans un tube d'aspirine. Fallait avoir envie de lire. Bien calé sur l'oreiller, la couverture au ras des narines, le bouquin pesant de tout son poids mis sur mon estomac, je lisais jusqu'à ce que les yeux me brûlent. Et encore, je luttais. Je me cramponnais. Une ligne de plus, une autre, plof, je basculais dans le grand trou sans même éteindre bien souvent. La lecture emplissait tous les interstices de ma vie. À peine éveillé, je tâtonnais de la main vers le livre comme un fumeur vers ses clopes. Je me traînais à table, mon bouquin sous le bras. L'installer devant moi, un peu à gauche, calé par un bout de pain ou par n'importe quoi à l'inclinaison exacte pour le confort de l'œil. Naturellement, maman râlait. C'est tout ce qu'il y a de plus malsain. Tous les docteurs te le diront. Tu t'esquintes la vue. Tu vas devenir bossu. Ce que tu manges te profite pas. Toutes ces bêtises te monteront à la tête. Tu vas me faire une conjection cérébrale. Qu'il n'y a rien de plus mauvais. Ou une méningite, c'est encore pire. Et tu sais, ou on en meurt, ou on reste fou. Et quelle charmante compagnie! C'est poli pour les autres, vraiment! Eh oui, mais rien à faire. Avant de passer à table, je me cherchais de la lecture. Le bouquin en cours, un livre de classe, n'importe quoi. Pour les cabinets, pareil. Le bout de journal que j'emportais pour me torcher, il fallait que je ne l'aie pas encore lu. Il allait être le compagnon de mon accroupissement. À part ça, j'étais un enfant joyeux, bavard, turbulent, plutôt teigne et châtaigneux. Rien du sombre renfermé qu'on pourrait croire. Je voulais tous les plaisirs, tous. Et celui-là était le plus fort de tous.
Hannah, hear me, just I whisper all of you. I whisper all of you. Certi capivano il jazz, l'argenteria spariva, ladri di stelle di jazz, così eravamo noi, così eravamo noi. Pochi capivano il jazz, troppe cravatte sbagliate, ragazzi scimmia del jazz, così eravamo noi, così eravamo noi. Sotto le stelle del jazz, ma quanta notte è passata, Marisa svegliami, abbracciami, è stato un sogno fortissimo. Le donne odiavano il jazz e non si capisce il motivo. Dap da da dap dap da da di di da dap da 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 di da 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 di da 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 di da 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 da. Sotto le stelle del jazz, un uomo scimmia
Camille. O forse balla chissà, do da do da do da, do da ti da do da. 2000 enigmi nel jazz, e non si capisce il motivo. Nel tempo fatto di attimi e settimane enigmistiche sotto la luna del jazz. Ta da ta da ta da ta da do da, and I hear me jazz. I whisper all of you, I whisper all of you. Yes.
C'était donc un extrait du livre L'Héritage de Cavanagh, un livre de 1978 édité chez Belfond. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres extraits. À très bientôt.